Je vous rappelle qu'on aura un point de presse aujourd'hui, c'est mardi, c'est la tradition. Point de presse présenté à 13h en direct sur nos ondes. Il sera sûrement question de vaccination. Alors Jean Deveau, d'ici là, on va commenter l'actualité. On va commencer avec, tiens, un sujet hier qui nous a permis de débattre ici entre les amis dans les studios ici. Il n'y a pas assez de Canadiens, sinon pas pantoute, avec le Canadien de Montréal, de Québécois, de francophones avec le Canadien de Montréal. Je peux-tu te lire? C'est toi qui as attiré mon attention là-dessus, mais je vais le lire pour le bénéfice, Jean, de ceux qui nous écoutent. L'entrée de jeu, l'attaque du papier de Philippe Quentin dans la presse. Il dit « Ce moment sombre dans l'histoire du Canadien fait mal à Jeff Molson. Après tout, ce premier match, sans un seul Québécois en uniforme, sera à jamais associé à son règne. C'est sous sa direction qu'aura été appliquée cette gifle envers le hockey de chez nous. Impossible de s'en dissocier, cela fait désormais partie de son héritage. » Moi, je trouve qu'il y en a qui y vont fort en café, en tabarnouche, avec ça, cette histoire-là.
Écoute, t'as le droit à ton opinion.
Oui, moi, oui.
Je suis tout à fait d'accord avec M. Quentin. Il faut réaliser une chose. Il y a comment d'équipes professionnelles qui sont centenaires? Très peu. Le Canadien, là, c'est, à travers le monde, là, tout sport confondu, c'est comme les Yankees de New York, c'est comme le Manchester United, c'est comme le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain. C'est une dynastie. OK, il y a 24 Coupes Stanley quand même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, mais il y a eu quand même 24 Coupes Stanley.
Je sais même pas à quoi ça
ressemble. C'est une dynastie et c'est une institution au Québec. C'est pas juste un club d'hockey, là. C'est une institution. Et effectivement, M. Molson, depuis le début qu'il est là, a prouvé que c'était pas quand même important pour lui le fait francophone. La preuve, quand il a nommé Randy Connerworth comme instructeur qui parlait pas un mot de français, ça a été une catastrophe, ils l'ont changé tout de suite après. Et depuis le tout début de son règne, il faut le dire, là, le repêchage a été fait de façon très, très cartésienne, OK? C'est-à-dire qu'on essaie toujours d'embaucher des joueurs, de repêcher des joueurs qu'on a besoin pour remplir une case dans notre organigramme de joueurs de hockey qui nous manque. On a besoin d'un défenseur, on a besoin d'un joueur d'avant, on a besoin d'un ailier gauche, un ailier droit. La plupart des équipes qui réussissent, c'est pas ça qu'ils font. C'est quand il arrive le tour de repêcher, là, ils repêchent le meilleur joueur disponible en se foutant carrément de la position où ce qu'il est. Et s'ils se ramassent avec trop de défenseurs ou trop de joueurs d'avant de talent à un moment donné, ils feront des échanges. Là, présentement, on se trompe tout le temps dans le repêchage, puis finalement, on échange des gars, puis on est capable d'avoir juste une douzaine de bâtons de hockey contre ces gars-là. C'est ça qu'il faut dire. Donc, comment de joueurs francophones qui, après le troisième tour, nous ont passé sous le nez et qui ont réussi des grandes carrières ailleurs. Qu'on parle aussi des joueurs comme... Écoute, parlons de Patrick Marleau.
Mais quand je vous entends, regarde Jean, quand je vous entends, là, ça sonne de la façon suivante. C'est comme si l'organisation du Canadien était raciste, qui faisait par exprès pour passer à côté des joueurs francophones.
Non, l'organisation du Canadien, Robert, a été fondée dans les années 1900 au début, là, puis on va voir la charte, là, pour trouver des joueurs du Québec. Ça peut être des anglophones puis des allophones aussi, là. On parle de Québécois. On parle pas de francophones nécessairement. Moi, ce que je veux, là, c'est qu'à partir du troisième tour, on s'entend que le premier tour puis le deuxième tour, là, les dés sont quasiment jetés. Il y a des évaluateurs professionnels qui ont analysé, là, et ils analysent quasiment l'urine à tous les jours des joueurs qui sont en nomination, là. OK. Ils connaissent tout. Mais à partir du troisième tour, là, c'est une loterie. Puis on sait jamais comment ça va finir. Donc, à partir du troisième tour, est-ce qu'on peut privilégier des Québécois, s'il vous plaît, qui parlent anglais, français, espagnol, allemand, russe? Je m'en fous. Les Bruins ont 6 ou 7 joueurs qui viennent de la Nouvelle-Angleterre. Les Rangers de New York ont une dizaine de joueurs qui sont américains. Chicago, la même chose. La plupart des bonnes équipes qui se reconstruisent, qui en sont pas à le quatrième plan quinquennal.
Mais ce qu'on veut, c'est parce que toi, c'est le sentiment d'appartenance, c'est parce que tu vas être plus amoureux de ton club.
Moi, que le joueur du Québec, il passe ses étés ici, puis il se fait écœurer tout l'été quand il perd. Hey. Quand il embarque sur la glace, il a plus de cœur que les autres. C'est juste ça.
Oui, en tout cas, on pourra repasser là-dessus. Là, c'est pas... Moi, ce que je veux, là, c'est une équipe qui gagne. Et là, on a fait la démonstration, cette équipe-là n'est pas capable de gagner depuis 25 ans. On va jamais très loin en série. Maintenant,
As-tu remarqué que ça correspond à la décroissance du nombre de francophones et de Québécois dans l'équipe?
Tu irais jusque-là,
c'est drôle. Tu me dis depuis 25 ans. Depuis 25 ans, ça arrête pas de baisser. Là, on a joué une game sans... Ça arrête pas de baisser depuis 25 ans. Il y a peut-être une stratégie à changer, là. Je sais pas, là, je pose ça comme question. Non, mais tu... On est rendu au quatrième plan qu'un canal.
OK, mais tu trouves pas que ça sonne un peu... C'est comme si on veut faire porter le chapeau, pas du racisme, mais de la discrimination négative, tu comprends-tu, là, et non pas positive. C'est-à-dire qu'ils vont préférer, là, lorsque le dernier choix arrive, là, t'as le choix entre un Québécois ou un autre, là, ben ils vont choisir l'autre au lieu de choisir le Québécois.
Moi, ce que je dis, c'est qu'ils devraient choisir les Québécois tout le temps, parce que de toute façon, c'est une loterie. On ne sait pas. Rendu à ces rangs-là, après le troisième rang, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'au septième tour, là, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas personne qui le sait. C'est vraiment un coup de dé. De temps en temps, t'as un Brendan Gallagher. De temps en temps, t'as des joueurs d'impact qui sortent après les troisième, quatrième, cinquième tours. Mais c'est très, très rare. Et le devoir de fiduciaire du Canadien, le Canadien, là, c'est la porte d'entrée des Québécois dans la Ligue nationale, autant comme joueur que comme entraîneur et comme gens aussi qui participent dans toutes les coulisses du hockey, qu'on parle des directeurs généraux comme Julien Brisebois. Tous ces gens-là ont eu la chance de performer grâce à la chance que le Canadien lui a donnée. On parle de Joël là, Bouchard avec le Rocket. On s'entend-tu que c'est un futur coach de la Ligue nationale? Là?
Oui, oui.
Pourquoi?
Oui.
Parce qu'il a eu sa chance avec le Rocket. Il y a un devoir de fiduciaire, OK? Et les si, Canadiens de Montréal ne remplissent plus.
Jean, et si on le prenait d'un autre côté, là? Et si les joueurs francophones n'avaient pas envie de jouer et d'évoluer à Montréal? Parce que d'abord, ils payent peut-être un peu plus cher d'impôts qu'ailleurs en Amérique du Nord. Ils se font écœurer un peu plus parce que la presse est omniprésente. Et si ça venait des joueurs, cette histoire-là?
T'as peut-être une partie de la réponse, là, c'est sûr. Mais c'est sûr que le joueur québécois qui est tout seul dans l'équipe, qui est tout seul à se faire taper sa tête quand ça va mal, parce que c'est le seul qui est capable de parler en français, OK, dans la conférence de presse, c'est sûr qu'il peut peut-être bien se sentir tout seul à un moment donné. Mais s'ils sont 5, 6, 7, c'est moins pire déjà. Moi, je pense que c'est un faux débat. Il faut juste que... Et je dis pas que M. Moulton, là, et que les gens du repêchage doivent se mêler des opérations OK. Chaque département a sa fonction, mais c'est au président de l'équipe de dire « à qualité égale ». Je répète, là, à qualité égale, on va toujours repêcher un local. Moi, dans mes entreprises, là, j'essaye d'engager du monde qui reste dans mon comté. C'est plus logique, c'est plus facile. Puis quand il y a une tempête de neige, je viens de travailler. Ça prend pas un cours classique pour comprendre ça. J'irai pas engager des gens de Repentigny si je peux engager des gens de Louisville. La même chose.
On verra si je peux te dire qu'il y a un coup de tonnerre là qui retentit. Visiblement, il y en a qui ça y touche vraiment. Là. On verra comment est-ce que l'organisation du Canadien va réagir autour de ça. Mais je peux te dire que depuis hier, ils n'ont pas réagi pendant tout. Là.
Ni M. Bergevin. Ça ne touche pas vraiment. On le voyait venir, Robert. On le voyait venir. Ouais. Je pense que le fait québécois... Oublie le francophone. Là. Toi, tu sticks sur le francophone. Là. Moi, je te dis... là. Le Québécois, tu es francophone ou anglophone ou allophone, tu priorises toujours un Québécois pour faire partie de ton équipe. Alors, regarde l'impact. Ben, excuse-moi, pas l'impact, le CF Montréal maintenant. Alors, regarde le CF Montréal, ils engagent des Québécois, ils ont même une école au Québec pour faire... C'est ça, ben, tu penses... As-tu été voir les supporters du FC Montréal quand tu vas jouer? Moi, je suis allé voir une game ou deux quand on pouvait, là, en 2019. Écoute, la gang, là, la section des fans, écoute, j'ai jamais vu
mais
du
mais moi, je reviens à mon argument d'hier, puis j'en démords pas. D'abord, une équipe gagnante sur la patinoire, sur un terrain de baseball, de football, avant toute chose, puis après ça, viendra le patriotisme.
Robert, écoute, je suis allé... Crois-tu vraiment qu'ils veulent une équipe perdante, là? Ils veulent toute une équipe gagnante. Là. Bon, mais la méthode qu'ils ont est pas bonne. La preuve est faite, ça fait 25 ans. Là.
On va en reparler. On verra, ça va peut-être les faire bouger. Là. Probablement qu'ils vont s'arracher le ruban de Midi Plus. Ils vont réécouter ça en boucle et probablement que ça va changer à partir de la semaine prochaine. Non, ben, là, on a un point de presse à 13h, puis je voudrais t'amener deux, trois sujets là, l'un après l'autre. Celui-là, toi qui es un bâtisseur, toi qui es un homme d'affaires, t'as vu l'histoire encore du coût des matériaux de construction, le marché immobilier qui est en feu actuellement. Là, c'est le Journal de Montréal aujourd'hui qui nous dit que le hausse soudain des prix des maisons amène une avalanche, c'est le titre du Journal de Montréal, une avalanche de plaintes des acheteurs de maisons neuves qui estiment avoir été piégés par les entrepreneurs. On dit que le téléphone des organismes communautaires en consommation ne dérougit pas les appels à propos du même sujet, des entrepreneurs qui construisent des maisons neuves haussent leur prix du jour au lendemain et menacent de résilier le contrat de vente si le client n'accepte pas. C'est fort, ça aussi, là.
Écoute, c'est sûr qu'il y a un problème au niveau contractuel, là. Les contrats sont pas faits en fonction d'une telle augmentation des prix. Il faudrait peut-être reviser un petit peu la procédure, là, au niveau de l'association des constructeurs et autant des consommateurs. Je pense qu'il faudrait, et quand il y a des contrats, ils sont toujours pour protéger contre une hausse des... C'est-à-dire qu'ils sont toujours pour protéger le contracteur s'il y a une hausse des prix, mais on ne parle jamais de baisser les prix s'il y a une baisse de prix. Ça aussi, il faudrait regarder ça comme il faut. Si tu protèges le contracteur d'une hausse de prix dans un contrat, il faut aussi que tu dises, écoute, tu protèges aussi le consommateur si les prix baissent, c'est la même chose. Donc, il y a un ménage, je pense, à faire. C'est un petit peu le Far West au niveau des contrats, okay, au niveau de l'Association des constructeurs du Québec. C'est ce que le journal L'Article semblait dire. Et je pense que là, l'occasion est parfaite parce que tout le monde va en subir les conséquences. Il y a des hommes et des femmes dans le domaine de la construction qui sont sincères, qui sont honnêtes. Je connais beaucoup de contracteurs, par exemple, qui cette année, à cause de la crise, c'est des contracteurs avec un excellent renom qui veulent continuer à garder une bonne réputation. Ce qu'ils ont fait, ils sont assis avec le client et ils ont dit au client, écoute, on va marcher COS plus pourcentage. À cause que les prix sont tellement fous, ben mettons qu'à la maison, il y a 100 000 piastres de matériaux, ben on va te charger 12 ou 15 % de profit puis ça va coûter 115 000. C'est sûr qu'une maison vaut plus que ça, mais je donne un exemple de chiffre pour que les gens comprennent. Donc, il y a beaucoup de contracteurs maintenant qui travaillent sur la formule COS plus pourcentage de profit. Comme ça, c'est clair, net et précis. Le consommateur peut vraiment voir le prix des matériaux et le profit que le contracteur va. Ça, je trouve que c'est un contracteur qui a su s'adapter à une situation exceptionnelle cette année.
Sauf que dans certains cas, les contrats sont déjà signés. Ce que l'article nous raconte, entre autres, la moyenne, l'augmentation moyenne, c'est 35 000 piastres. Ils ont même vu un record, OK, là, pour une maison de 300 000 piastres, une augmentation de 135 000 $.
Mais ça, on s'entend que ces contracteurs-là, c'est des voleurs, là. C'est bon, on s'entend. Puis où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, là. Moi, là, l'exemple que je t'ai donné, là, c'est des gens qui avaient signé des contrats, là. Puis ils sont assis avec les contracteurs. Le contracteur trouve que ça n'a pas d'allure, les augmentations. Puis le consommateur aussi. Il y a du monde qui sont honnêtes, ces deux bords, là, Robert, là. Mais sur la gang de contrats, on va trouver quelques centaines de ratoureux, autant du côté consommateur que du côté contracteur. Tu sais que le contracteur aille voir un consommateur puis qu'il lui dise, écoute, les prix ont augmenté de 75 % au niveau des matériaux. Là, on peut-tu faire quelque chose? Puis que le consommateur l'envoie promener. Non, j'ai un contrat. C'est aussi dommageable pour le contracteur, tu me suis? Il y a de l'hommerie, là, autant du côté des constructeurs que du côté des consommateurs. Il faut trouver une façon élégante et surtout équitable pour juger de la situation. Et je pense qu'au niveau des contrats, là, tout le monde a sa leçon, là. Au niveau des contrats, là, on devrait peut-être réévaluer tout ça, un peu comme on a déjà réévalué les bails qu'il y a entre les locataires et les locataires, les bails du gouvernement. On les change de temps en temps pour satisfaire de nouvelles normes qui sont dues à toutes sortes de bonnes intentions. On devrait faire la même chose au niveau des contrats. Et on ne devrait plus maintenant construire de maisons à l'avenir sans avoir un contrat détaillé qui prévoit des hausses, mais qui prévoit aussi des baisses.
Absolument, parce que souvent, ce qui arrive, Jean, c'est que lorsqu'il y a des hausses, c'est systématiquement filé aux consommateurs.
Tout le temps.
Puis quand il y a des baisses, ben l'entrepreneur met ça dans ses poches.
C'est en plein ça. Mais comme je te dis, moi, en tout cas, il y a des contracteurs à qui j'ai parlé, puis qui... Ils sont vraiment assis avec le client. Ils ont expliqué comme il faut. Puis là, ils ont dit, écoutez, habituellement, on marche à une marge, mettons, de 18 ou 20 %. Là, on va marcher à 12, 14. On va faire une part, nous autres aussi. Mais faites votre part, vous autres. Tu sais, tu t'assis, tu discutes, tu jases. Puis à la fin, on oublie le contrat qu'on a fait, mais on en fait un nouveau. Vous voyez, ça n'a pas d'allure. Une fête de plywood, ça coûte 102 piastres. Tu le vois que ça n'a pas d'allure. Non, mais quand les gens sont de bonne foi de chaque côté, il y a moyen de s'arranger. Ben, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. T'as raison.
Une autre grève aujourd'hui qui débute là dans c'est commencé je pense depuis midi aujourd'hui les cégeps une grève je vais dire que le gouvernement caquiste l'a pas facile avec ses négociations dans le secteur public.
Écoute, je trouve que c'est ben, tu connais mon avis là-dessus, je pense que c'est pas le temps de faire une grève dans le temps de pandémie. Et même s'il y a des problèmes à régler, je suis conscient là, que la convention collective est pas parfaite, il y a sûrement des choses à améliorer. Mais je pense qu'en temps de pandémie, là, au niveau de l'effort collectif de toute la population, ça inclut aussi les travailleurs syndiqués, je pense qu'on devrait se dire, tout le monde, on fait pas de grève, on va régler le cas de la pandémie, mais après ça, on verra. Je ne sais pas du tout c'est quoi le problème et où ça achoppe au niveau des cégeps. Mais faut dire une chose, que le gouvernement, à date, dans les offres qu'il a faites aux professeurs, en tout cas du secondaire puis du primaire, on l'a vu là, quoi, la semaine passée, les augmentations très, très fortes au premier échelon, beaucoup moins d'augmentation après ça pour être capable de rejoindre la moyenne canadienne. Je sais pas si c'est ça qu'on a offert aux professeurs de cégep. J'ai aucune idée, là.
Bon, de toute façon, regarde, t'auras les détails dans un petit moment. On va parler avec un président de syndicat. Puis en terminant, au toit grand devin devant l'Éternel, un point de presse dans 20 minutes. Il va nous annoncer quoi, M. Legault?
Pas grand-chose. Des petites tapes dans le dos, ils vont nous féliciter, tout le monde. Ils vont nous taper ses doigts un peu, la Mauricie, parce que le centre du Québec, ça va pas trop bien. Okay. Il va essayer d'être... Il va chauffer le chaud et le froid. Il va nous dire, écoutez, la vaccination va très, très bien. Et c'est le danger, hein. Je parle avec des gens, là les gens disent, ah, je suis vacciné, là. Faut pas partir en peur. Non, non. Faut encore continuer les mesures sanitaires. Faut encore se protéger avec le masque. Faut pas lâcher, là, notre... Il faut vraiment garder le focus sur les mesures sanitaires. Et je pense que c'est ça qu'il va répéter comme message. Il n'y a pas grand changement, là, à part le fait qu'on a plus de vaccins qui sont donnés aux gens. On voit que la vaccination en termes de rendez-vous, ça va super bien, même au niveau des jeunes. Ça, on est super content, tout le monde. Donc, il nous reste quoi? 3-4 semaines peut-être là, avant d'atteindre le fameux 75%, 80% magique de gens vaccinés. Ça va correspondre en plus avec le début de l'été. Et je pense que c'est ça qu'il va nous dire aujourd'hui. Il va juste nous avertir de pas baisser la garde, de continuer. Et va taper sur les doigts peut-être la Mauricie Centre du Québec.
Je te souhaite de passer une bien belle journée pour ce qu'en reste. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Puis juste pour pour mettre ça dans tes statistiques personnelles, 660 cas supplémentaires aujourd'hui. C'est quelques-uns de moins qu'hier. Sauf que là, ici, il y a un petit problème. Là. Je trouve qu'on teste pas beaucoup. Là. Pas beaucoup de prélèvements. Là. On est à 22, autour de 20 000, là, 20, 25 000
mais je lisais, prélèvements. Je disais, Robert, que sais-tu aussi pourquoi il y a moins de tests? Et c'est pas bête.
Ouais.
La saison. Habituellement, quand c'est l'hiver, quand c'est plus froid, ben, il y a plus de symptômes grippaux.
Ah.
Tu sais, là, on arrive en été.
Oui.
Tu sais, tu vas te faire tester quand tu as des symptômes.
Oui.
Mais là, il n'y en a plus. Tu sais, il y a des gens qui ont eu des rhumes. Moi, je suis allé me faire tester deux fois parce que j'avais le rhume, puis j'étais négatif. Mais là, je n'ai plus de rhume. T'sais, c'est l'été qui s'en vient. Donc, veux pas, il y a moins de gens qui ont des symptômes grippaux ou de rhume. Donc, il y a moins de gens qui vont se faire tester. Ça peut peut-être expliquer un peu qu'il y a moins de tests.
Pas demain. Oui, j'aurais aimé demain, là, mais écoute, on va patienter jusqu'à la semaine prochaine. Salut, Jean.
Salut, à toi.
Jean Deveau vient avec nous autres le lundi et le mardi pour commenter l'actualité. Demain,